Merci beaucoup et merci au groupe de recherche de m'avoir invité à présenter du coup ma jeune recherche puisque je vais vous présenter la thèse que j'ai soutenue l'an dernier en octobre. Donc j'ai intitulé ça « Des utopies du net aux startups administratives » mais vraiment l'objet de ma présentation ça va être d'interroger la place des acteurs publics dans la révolution numérique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je fais très rapidement mon parcours de recherche. Donc j'ai soutenu cette thèse l'an dernier. En parallèle, j'ai beaucoup travaillé au centre plus sur comment les méthodes numériques pouvaient aider la recherche en sciences politiques. Et donc notamment, on a fait du web scrapping sur les carrières des hauts fonctionnaires et puis des analyses de réseau au sein d'une enquête collective sur la sociologie politique du gouvernement. En parallèle aussi, je participe à une enquête sur le champ de la régulation publique indépendante, donc qui bien sûr s'intéresse beaucoup à la régulation du numérique. Et avec mon collègue Pierre France, on réalise en ce moment une socio-histoire de la CNIL avec un entretien avec des acteurs anciens et contemporains de cette institution qui a bien changé depuis le RGPD. Et puis bah là, depuis avril, donc c'est tout récent, je suis en contrat postdoctoral chez Orange Labs et je travaille sur l'analyse des controverses de l'intelligence artificielle. La recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui est ma recherche de thèse, elle est issue d'une interrogation de politistes qui abordent les travaux sur l'Internet, sur la gouvernance du numérique, etc. Puisque pour nous, les politistes, l'État, c'est vraiment un acteur majeur, c'est un peu notre obsession. Et dans la plupart de ces travaux, l'État était relativement absent ou alors apparaissait comme une entité assez unifiée et un peu externe, comme l'objet de mobilisation ou un acteur qu'on n'avait pas trop envie de voir pénétrer tous ces processus. Donc, par exemple, dans l'histoire de l'Internet, même si, bien entendu, l'histoire de l'Internet rappelle à quel point le développement des réseaux informatiques doit aux agences militaires américaines qui ont financé une partie de la recherche, mais elle montre aussi comment ces structures de recherche vont s'autonomiser des injonctions politiques et construire aussi des institutions de gouvernance relativement autonomes. Du coup, dans les travaux sur la gouvernance de l'Internet, il y a une attention très importante aux structures qui sont infra- ou supra-étatiques, comme l'ICANN ou le W3C, et à des modes alternatifs de gouvernance ou de gouvernement. Et puis, il y a des travaux qui, pour le coup, s'attaquent davantage à l'État, qui sont les travaux très nombreux sur la censure et la surveillance. Mais soit ces travaux se sont parfois focalisés sur des régimes autoritaires, ou justement parce qu'ils s'attaquent à une partie de l'intervention de l'État qui est très peu légitime, ils ne rentrent pas vraiment dans les administrations parce que c'est aussi la partie la plus régalienne et la plus difficile d'accès pour le chercheur. Donc l'objectif de ma recherche, c'était de remettre ces acteurs publics au cœur de mon analyse et de voir en fait comment ils s'étaient appropriés cette révolution numérique. Alors l'État, ça apparaissait quand même, si on prend un peu les trois grands pans de la science politique, comme un acteur triplement illégitime. Si j'entrais par l'histoire des idées, il y avait quand même toute une culture des mondes numériques qui refusait l'ingérence étatique dans les mondes de l'Internet. Donc vous vous souvenez, par exemple, de la déclaration de l'indépendance du cyberespace qui dit « gouvernement du monde industriel, vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous ». Et puis en plus, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont montré qu'il y avait une opposition presque de culture organisationnelle entre la bureaucratie, des formes bureaucratiques d'organisation, et le numérique. Donc là, pour un peu paraphraser Weber, il y a comme des non-affinités électives entre ce qu'on pourrait appeler une culture bureaucratique et une éthique numérique. Du point de vue, du point de vue de l'action publique, c'était plus en fait beaucoup de travaux qui montraient l'inefficacité de l'intervention de l'État. Il y avait des lois qui sont passées et qui sont abrogées par soit la Cour suprême, soit qui n'aboutissent pas en fait parce qu'elles sont remises en cause avant même d'être adoptées, ou des processus qui, en fait, une fois adoptés, ne sont jamais mis en œuvre parce qu'en fait, ils ne sont pas efficaces. Donc, on avait l'impression, de ce point de vue, que l'État ne pouvait pas intervenir. et aussi donc, dans ce qui est une entrée très classique en fait, de la science politique, qui est la sociologie de l'État et des institutions, bah, j'avais du mal à trouver des institutions durables à partir desquelles entrer. Parce que, bon, ça peut paraître un peu bête, mais il n'y a pas de ministère de l'Internet. C'est souvent un peu facile quand on veut travailler sur les politiques culturelles. Bon, bah, on va au ministère de la Culture. Là, il semblait qu'il fallait aller un peu partout. Ou alors observer des institutions qui avaient disparu, comme par exemple le Forum des droits sur Internet qui avait été lancé par le gouvernement Jospin, puis qui avait été supprimé. Donc il y avait une forme d'instabilité qui résistait à l'analyse. Et puis, la deuxième chose qui m'importait, c'était aussi de réinscrire cette étude dans le cadre national. Donc, c'est vrai que c'était un parti pris qui peut être critiquable parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau européen ou au niveau international. Mais je voulais par là restituer trois choses qui me paraissaient importantes à partir du cas français. C'est que déjà, en commençant par enquêter dans les milieux militants français, il y avait des vraies critiques à l'égard de, on va dire, une culture militante américaine plus libertaire. Et voilà, et quand je parlais avec des militants, ils me disaient, nous, en Europe, on n'a pas forcément cette approche, on n'est pas anti-étatique. Voilà, on cherche aussi, on réfléchit à comment travailler avec certaines institutions, etc. Ce qui était intéressant aussi dans le cas français, c'est que historiquement, donc il y a de nombreux travaux qui ont montré la place prépondérante de l'État dans la conduite de l'innovation. Et de ce point de vue, Internet, bah, c'est une innovation qui a complètement échappé à l'État en France, puisqu'elle ne vient pas de l'État, il n'y a pas eu un grand programme Internet. Les acteurs publics ont dû rattraper cette innovation en cours. Et puis, bien sûr, la France, elle est aussi intéressante parce qu'il y a eu cette expérience structurante du Minitel. Et ça, c'est ce que les travaux de Valérie Schaeffer ont bien montré, c'est qu'à la fois, ça a pu constituer un frein au développement de l'Internet, mais ça a aussi installé une culture numérique particulière en France. Donc pour tous ces cas-là, il me paraissait intéressant de réinscrire mon travail dans un cadre national tout en maintenant des points de comparaison à plusieurs moments. Donc finalement, ma méthode, j'ai procédé de trois manières différentes. D'abord, j'ai beaucoup travaillé à base d'entretiens, mais en ne me limitant pas en fait à des acteurs publics. Parce que comme je vais le montrer, on va dire le développement d'une intervention numérique s'est beaucoup appuyé sur des experts, sur des consultants qui ont été associés à certains moments aux institutions publiques. Ce travail sur les entretiens, il m'a permis ensuite de construire une grande base prosopographique, qui est plus grande que mes 63 enquêtés, à partir de laquelle j'ai construit une analyse de réseau. Ensuite, bien entendu, je me suis aussi beaucoup appuyée sur un large corpus documentaire essentiellement composé de littérature grise. Ça veut dire que j'ai lu en fait tous les communiqués, les rapports internes de France Télécom, par exemple, mais aussi les rapports publics. Les archives du net pour des sites institutionnels qui ont aujourd'hui disparu, comme par exemple internet.gouv.fr, qui était dans les années 80, à la fin des années 90, le site qui recensait toute l'action de l'État français en faveur de l'Internet. Bon, les RFC, je m'en suis plus appuyée pour voir en fait quelles ont été la contribution de certains chercheurs français et à quel moment au développement de l'Internet, mais je reviendrai assez peu là-dessus. Et puis, j'ai fait deux observations, dont l'une au cabinet du ministère de la Culture. Donc là, il s'agissait vraiment de comprendre, quand on a une loi qui touche au numérique, dans une administration sectorielle, comment ça se passe. Et puis, dans des associations militantes, essentiellement la Quadrature du Net. Donc voilà, sur ce gros travail, je vais pouvoir présenter aujourd'hui plutôt que deux aspects, mais si vous avez des questions, bien sûr, je pourrais revenir dessus. Donc, d'abord, revenir avec vous sur ce moment très intéressant de la fin des années 90 où se forment des coalitions intersectorielles pour diffuser l'Internet dans l'État. Et puis ensuite, je reviendrai sur ce qui m'a beaucoup intéressée, qui occupe toute une partie de ma thèse, ce sont les formes de bureaucratisation des politiques numériques. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand l'État s'approprie une technologie qu'il n'a pas lui-même produite, et qu'est-ce que ça peut faire à ces mondes de l'Internet. Alors, du coup, ces années 90, donc elles sont particulières en France puisqu'il y a des résistances très fortes à l'Internet. Donc d'abord parce que dans les années 90, le nombre de services militaires et même les revenus que génère le Minitel continuent à croître jusqu'à à peu près 1997. Et puis en plus, la population française est assez peu équipée en matériel informatique. Donc ça fait deux éléments qui expliquent d'une certaine forme le retard un peu à l'allumage de la France. Mais il y a aussi, et j'ai voulu enquêter là-dessus, des résistances bureaucratiques très fortes au développement de l'Internet en France. Donc je vous en ai présenté trois ici. La première, c'est bien sûr la résistance de l'administration des télécommunications avec le rapport Théry, donc Gérard Théry, qui a été directeur des télécommunications dans les années 80, qui a lancé le grand plan Télétel pour créer le Minitel, et qui est chargé par le gouvernement en 1994 de produire un rapport sur les autoroutes de l'information. En fait, de répondre à la question, quels vont être les standards et les infrastructures qui vont supporter les autoroutes de l'information qui, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, apparaissent comme le principal moteur de croissance au XXIe siècle. Et Gérard Théry et ses acolytes, puisque bien sûr, il n'écrit pas le rapport tout seul, vont dire « ça ne va certainement pas être l'Internet. L'Internet est trop limité. Il ne pourra pas, à lui seul, supporter une infrastructure de réseau mondial. Le protocole TCP/IP n'est pas assez sécurisé, ça ne marche pas. » Donc il y a vraiment des résistances très fortes de quand même ceux qui ont un pouvoir non négligeable dans l'État, qui sont ces grands corps techniques, au développement de l'Internet, qui vont lui préférer d'autres standards, d'autres infrastructures réseau développées essentiellement par l'administration des télécommunications. Et puis, il y a aussi des réticences, d'ordre plutôt sécuritaire. Internet, à l'époque, c'est le réseau américain. Et donc, connecter, en fait, l'administration à l'Internet, c'est, pour certains, créer une brèche dans la sécurité nationale. Donc, c'est le général Devin qui, à l'époque, dirige le service central de la sécurité des systèmes d'information, qui est une direction rattachée au Premier ministre et qui va interdire en fait l'utilisation d'Internet. Donc les quelques administrations qui ont l'Internet ont un boîtier en fait de sécurité pour se connecter, c'est-à-dire qu'il faut en gros éteindre l'ordinateur, switcher sur le boîtier et on peut faire une utilisation très très limitée de l'Internet depuis depuis son ordinateur au sein d'un ministère. Et puis, bien entendu, il y a aussi une très faible culture numérique de la haute administration. C'est-à-dire, autant dans l'État, il y a des gens qui se sont appropriés ces outils, mais la haute administration utilise très peu, ne tape pas à l'ordinateur. Il y a encore, tous les directeurs d'administration ont des secrétaires. Et un enquêté qui veut me faire sentir, en fait, quelle était la situation, me dit « mais il faut bien se rappeler ». Qu'à cette époque, personne ne parlait vraiment d'Internet. Et à ce moment-là, un chef de bureau qui se respectait, il n'avait pas d'ordinateur. C'était vraiment un truc pour les secrétaires. Donc il y a en plus un soupçon d'illégitimité pour les gens qui utilisent les nouvelles technologies et qui s'y intéressent. En fait, les entretiens plus récents me montrent que ça n'a pas forcément changé. Par exemple, là, j'ai fait plus des entretiens dans l'ancien gouvernement de Hollande. Et le conseiller numérique de Manuel Valls me disait « mais Manuel Valls n'utilise pas d'ordinateur. Il n'a pas d'ordinateur sur son bureau, il utilise son smartphone. » Mais en fait, la culture numérique n'est pas, ne reste pas très développée dans la haute administration. Face à ces résistances, et ce qui était intéressant pour moi, c'est de montrer que l'administration n'est pas non plus complètement à la masse. Il y a énormément d'initiatives qui sont lancées, donc de ceux qu'on va appeler les francs-tireurs de l'administration, mais ce sont des initiatives dispersées. Donc vous connaissez sans doute, celle qu'on connaît le plus, c'est Adminet, donc qui est un site qui est animé par Christian Scherer au ministère de l'Industrie et qui met en ligne en fait énormément de documentation législative, de tout ce qui est de l'ordre du domaine public. et qui va se faire un peu taper sur les doigts pour ça, j'y reviendrai. Mais il y a aussi, par exemple, dans l'administration culturelle, le lancement de sites pionniers pour favoriser l'accès au patrimoine. Donc des sites, par exemple, un des premiers sites internet lancés par une administration, c'est un site sur la grotte de Lascaux, où il y a des images voilà, de la grotte, des textes de chercheurs, etc. En fait, qui prolonge une politique de numérisation du patrimoine qui a été lancée il y a bien plus longtemps, au moment des grands chantiers de l'informatisation de l'administration, donc quasiment 20 ans plus tôt. Et puis, il y a aussi des associations d'administrateurs connectés et de webmasters qui se réunissent pour essayer de défendre l'Internet, de critiquer cette résistance, ces réticences un peu archaïques de la très haute bureaucratie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça circule beaucoup entre ces différents petits pôles. Donc, ce sont des initiatives dispersées. Mais comme le dit Bruno Mannoni, donc, qui était le chef des services d'information au ministère de la Culture et qui, de manière un peu unilatérale, décide en 1994 de connecter tous les ordinateurs du ministère à l'Internet et de créer une adresse mail pour tous les agents. Donc, il le fait parce qu'il est aussi dans une administration qui n'est pas régalienne. Ce n'est pas quelque chose qui peut se produire au ministère de l'Intérieur ou de la Justice, mais c'est une initiative complètement unilatérale. Et bien sûr, ces francs-tireurs se font relativement taper sur les doigts. Donc, soit ils suscitent une forme d'indifférence de leur hiérarchie, soit parfois ils sont réprimandés, certains de manière plus virulente que d'autres. Donc, par exemple, Bruno Houdet, qui est le fondateur de l'ISOC France, qui travaillait avant pour le ministère des Affaires étrangères, était conseiller recherche à l'ambassade de Washington, n'est pas reconduit dans ses fonctions parce qu'il a lancé un service de messagerie Internet à Washington, alors qu'à ce moment-là, la doctrine du ministère des Affaires étrangères, c'est qu'il faut vendre le Minitel aux Américains. Donc, parce qu'ils sont aussi, qu'ils peinent en fait à imposer leur vue, ils vont s'allier à des militants, à des experts, à des entrepreneurs numériques autour de ce que je vais appeler un espace de la cause Internet qui est particulièrement ouvert et particulièrement dynamique à la fin des années 1990. Donc, qui va s'organiser autour de moments d'échange ritualisés, donc avec les rencontres de l'ISOC France à Autran, les universités de la communication à Hourtin, mais aussi les fêtes de l'Internet, ou des moments plus ponctuels qui sont les soirées de l'atelier à BNP Paribas, donc une sorte de cellule un peu de recherche et développement au sein de BNP Paribas, qui va accueillir en fait tout un tas d'innovateurs qui développent des sites Internet ou qui s'intéressent à l'Internet. Et il y a aussi à cette époque, les structures d'engagement sont très ouvertes. Donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans clubsena.fr, qui est plutôt en fait une structure qui réunit les quelques politiques qui sont très peu nombreux à l'époque à s'intéresser à l'Internet, mais qui va aussi du coup accueillir des militants et des entrepreneurs. Et pareil, par exemple, à l'Association des utilisateurs de l'Internet, donc qui est une association qui a été fondée par Myriam Marzouki et Laurent Chemla, il va y avoir des politiques. Patrick Bloch va à un moment être même le président d'honneur de cette association et va participer à quelques réunions. Et puis, des combats communs, donc autour de la fermeture d'Adwinet, dont je vous avais parlé juste avant, hein, de cette initiative qui était de mettre en ligne tout un tas de documents administratifs lancés par Christian Scherrer. Et en fait, il met en ligne le journal officiel. Or, le journal officiel est l'objet d'une concession exclusive accordée à une entreprise qui s'appelle ORT Télématique. Et donc, ça remonte jusqu'au secrétaire général du gouvernement qui dit on ne peut pas faire ça dans mes ministères, il faut radier Christian Scherrer du ministère de l'Industrie et même le radier du corps des mines, puisque c'est un ingénieur des mines. Et donc autour de cette répression vont aussi s'organiser des coalitions, des formes de soutien, ne serait-ce que pour relayer sur d'autres serveurs cette publication du journal officiel. Et puis par exemple aussi autour de l'affaire Alterne, donc, qui voit la fermeture de l'hébergeur militant Alterne, il va aussi avoir des mobilisations croisées avec des prises de position de politiques, mais de certains hauts fonctionnaires très hauts dans le gouvernement. Donc, des choses qui, aussi pour avec l'œil de la science politique qui sont assez inédites, ce type de circulation où les hiérarchies semblent un petit peu bousculées, se produit assez peu souvent. Donc à partir de là, j'ai construit une analyse de réseau qui apparaît en fait très mal, pas très bien ici, mais voilà. En prenant, en fait, j'ai pris les structures d'engagement dans lesquelles se retrouvaient tous ces promoteurs de l'Internet et j'ai construit un réseau à partir des co-appartenances des différents individus. Et ce qui est intéressant, bon, ce n'est pas forcément de voir tous ces gens qui sont liés, donc, dont certains, on les reconnaît, mais d'autres un peu moins. On voit peut-être des gens comme Patrick Bloch qui est redevenu une figure un peu importante au moment de la loi Hadopi, des gens comme Daniel Kaplan qui anime maintenant la FING, donc une sorte de think tank très proche de l'administration. Mais à l'époque, ça forme un réseau assez dense au sein duquel on voit quand même se distinguer certains pôles. Et en fait, ces différents pôles montrent que ce n'est pas non plus un milieu complètement ouvert. Et il dessine déjà des lignes de fracture qui vont ensuite, au moment de la bureaucratisation de ces politiques numériques, qui vont s'exacerber. Donc je pourrais revenir là-dessus. Donc oui, là, c'est intéressant. Vous avez du coup des alignements entre des gens comme Laurent Chemla, que vous connaissez, Jean-Paul Bacchiaz, donc, qui est déjà à l'époque un assez vieil administrateur. C'est un énarque qui s'intéresse très tôt à l'Internet, qui dirige un petit service qui est celui en fait, de l'uniformisation des systèmes d'information dans l'État, mais qui est un service qui est hébergé au sein du ministère de l'Économie et des Finances et qui peine à faire valoir ses vues face à la vision plus sécuritaire qui va dire non, il ne faut surtout pas qu'on se branche à l'Internet, voilà, et qui échange donc dans ces réunions autour de ces moments particuliers des années 90. Ce que ça va produire, finalement, cette coalition, elle va plutôt bien réussir, elle va avoir un petit moment de réussite avec l'adoption par le gouvernement de Lionel Jospin. Donc, en fait, à la faveur d'une alternance politique, il va y avoir un petit moment d'ouverture, ce qu'on appelle dans le jargon dans la science politique, une fenêtre d'opportunité qui va permettre en fait de lancer plusieurs politiques de développement de l'Internet en France et qui sont annoncées par un discours qui est souvent un jalon important pour ceux qui s'intéressent à la politique de l'Internet, qui est le discours d'Hourtin, où Lionel Jospin annonce que l'émergence d'une société de l'information est un défi politique et une préoccupation essentielle de son gouvernement et qui va aussi, dans son discours, vraiment affirmer un passage du Minitel ou en tout cas qui va permettre de passer d'un flou politique sur le choix du réseau, la préférence des réseaux du gouvernement à une acceptation volontariste de l'Internet comme le réseau du XXIe siècle. Donc il va y avoir plusieurs politiques qui vont naître de ça. D'abord, un programme transversal de développement de l'Internet, qui est le programme d'action gouvernementale pour la société de l'information, le PACSI, qui va en fait surtout permettre de visibiliser, de revaloriser toutes ces initiatives un petit peu dispersées. Elles vont aussi trouver plus facilement de quoi se financer. Elles vont être désormais reconnues par leur hiérarchie. Il va y avoir la promotion en fait de tous ces francs-tireurs qui étaient parfois un petit peu cantonnés dans des sous-services. Il va y avoir aussi une augmentation substantielle de la dépense publique pour l'internetisation de l'administration, donc avec des achats d'équipements aussi. On va brancher les différentes administrations. Par exemple, il n'y a pas de... À cette époque, un enquêté me raconte qu'il n'y a pas de réseau qui relie les deux bâtiments de Matignon. Donc, il y a les deux bâtiments, il y a un jardin au milieu et il se rend compte à un moment qu'il n'y a pas de réseau, donc il profite d'un moment où on installe l'arrosage automatique pour dire « faites-moi passer un petit câble en même temps, ça pourra améliorer le travail ». Et puis, il y a aussi quelques innovations institutionnelles. Donc, c'est un vrai moment d'effervescence, on retrouve bien dans les rapports publics de l'époque, avec la création d'un forum des droits sur Internet, c'est-à-dire on veut essayer de faire reconnaître le principe d'une gouvernance multipartite en mettant en place des mécanismes de médiation où les militants ont une place, où les entrepreneurs ont une place. Et puis, par exemple, la création d'une mission interministérielle pour le développement des technologies de l'information et de la communication, qui est intéressante parce qu'en son sein, il y a énormément d'informaticiens et de webmasters. Donc, dans ces missions rattachées au Premier ministre, où il y a très souvent en fait, des grands corps techniques, ben là, il va y avoir une valorisation de ce savoir spécifique qui est celui des informaticiens. Bien sûr, tout cela n'est en fait que de courte durée. Et assez rapidement, on va voir se mettre en place, dans les années plutôt 2000, une bureaucratisation des politiques numériques qui va remettre en cause un peu, enfin, ou qui va fermer ce moment d'ouverture particulier des années 90. Donc la bureaucratisation, elle renvoie en fait à ce que Alison et Alperin appelaient en 1972 la politique bureaucratique, c'est-à-dire l'importance des cultures organisationnelles, des cadres cognitifs et des routines administratives dans la manière dont sont pensées les politiques publiques. Dans le numérique, on va l'observer. Enfin, moi, je l'observe à partir de trois phénomènes. D'abord, la sectorisation. C'est-à-dire que ce qui était intéressant dans ce moment d'ouverture des années 90, c'est qu'il y avait un programme très transversal, une acception du numérique comme un objet de politique publique complètement transversal. Or là, on va observer une sectorisation, c'est-à-dire au fond, on va redécouper la politique numérique en différents petits précarés qui correspondent aux divisions administratives, avec donc l'exemple que je vais plus particulièrement traiter aujourd'hui, c'est par exemple toute la question de la circulation de l'information par le ministère de la Culture autour des politiques du droit d'auteur. Ensuite, il va y avoir une technocratisation très forte de ces politiques numériques. Comme je vous le disais auparavant, ce qui est intéressant, par exemple, dans la création de la MTIC, c'est la place qui occupe les informaticiens. Et les années 90, c'est même une année où pendant 2 ans, il y a au concours de l'ENA une épreuve d'informatique. Puis ensuite, ça dispose. C'est une épreuve qui est optionnelle. Alors, il y a des rapports qui parlent de la rendre obligatoire. Et puis ensuite, ça disparaît complètement. Vous savez qu'aujourd'hui, on en reparle à nouveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une affirmation des compétences étatiques, en fait, qui sont les compétences des grands corps, contre les savoirs numériques qui avaient permis de donner une place à des militants experts. Et puis, une économisation grandissante de ces politiques numériques, donc économisation entendue au sens de l'économie va tenir lieu de projets politiques. En fait, les politiques numériques, elles vont être pensées sur le modèle des acteurs et des enjeux de l'économie numérique. Alors, pour ce qui est de la sectorisation, donc c'est intéressant, par exemple, autour des politiques du droit d'auteur. En fait, il n'est pas du tout évident, a priori, ça l'est encore moins dans les années 90, que toute la question des brevets, de la circulation de l'information, doit revenir au ministère de la Culture. En fait, ça peut être pensé comme un projet transversal qui même pourrait être le fondement d'une institution numérique qu'on chercherait à construire. Et d'ailleurs, le Forum des droits sur Internet, dans les premières années, va essayer de défendre cette vision un petit peu transversale des politiques de circulation de l'information. Et ils vont très rapidement se heurter à la grosse administration du ministère de la Culture. Donc là, c'est aussi une particularité du cas français où le ministère de la Culture est assez puissant, qui va délégitimer complètement l'action du Forum des droits et toutes les expertises qui sont construites par le Forum des droits à ce moment-là, et même des expertises qui se développent sur la licence créative, etc., en disant « on n'en veut pas, ce n'est pas votre sujet, c'est un sujet culture, on va s'en occuper ». Cette appropriation par le ministère de la Culture, elle passe par une réorganisation fonctionnelle très importante. C'est aussi des années où le ministère va beaucoup bouger. Il y a la création de multiples agences. Donc, bien sûr, il y a la DOPI en 2009, mais avant, il y a le CSPLA. Et puis, il y a même des réorganisations fonctionnelles, c'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas... À l'époque, il y a une direction création, une direction patrimoine, et puis on va fondre, en fait... les directions de création de patrimoine et créer une grosse direction qui va être la direction médias et communication qui, en fait, va récupérer tous les services, toutes les questions numériques. Et puis, il y a une dépolitisation progressive de ces sujets. Donc là, c'est vraiment dans le moment post-Adopi. on voit très bien comment les militants sont évincés, en fait, même au sein du cabinet, quand ils ont des places, ils sont très vite relégués à l'arrière-plan pour mettre en valeur vraiment des savoirs technocratiques et les actions professionnelles, c'est-à-dire vraiment une expertise sectorielle à l'opposé d'une expertise plus transversale numérique. Cette technocratisation, elle s'observe de manière générale dans l'écriture des lois numériques. Donc moi, j'ai suivi l'écriture de plusieurs lois, donc de la loi surveillance et aussi de la loi République numérique. Et au cours des entretiens, on voit que les quelques personnes qui essaient de défendre un petit peu, voilà, de faire vivre en fait ces grands projets du numérique dans l'écriture de la loi se heurtent très vite aux hiérarchies administratives et à la place prépondérante qu'occupent les trois grandes magistratures publiques que sont la Cour des comptes, le Conseil d'État et la magistrature, au nom de leur expertise sur l'écriture de la loi. Et un membre du cabinet d'Axel Demer me dit, il y a cette culture bien ancrée chez les magistrats qui nous résiste, qui est de dire l'important c'est comment on écrit le droit, l'application suivra, comme si la maîtrise technique n'était pas importante. Et donc tout ce qu'eux essaient de développer dans ces discussions, c'est pas des anarchistes, hein, c'est vraiment des gens qui travaillent au sein de l'État, mais d'essayer juste de dire, bon, il faut qu'on s'interroge sur la faisabilité technique de, par exemple, de ces algorithmes de filtrage, des communications. En fait, ils sont très peu entendus puisque voilà, on leur renvoie l'idée que la loi ne doit pas s'occuper de ça. Ce n'est pas comme ça en fait, qu'on écrit la loi. Ils n'ont pas compris comment la loi s'écrivait. Donc, il y a une faible reconnaissance des expertises techniques et des savoirs informatiques dans l'État. Et d'ailleurs, toujours hein, dans la formation des élites, ça occupe une place très peu importante. Et puis, il y a progressivement ces grands corps techniques qui avaient été un petit peu délégitimés par leurs prédictions assez erronées quant à l'avenir du Minitel et de l'Internet, vont revenir en France en force et récupérer des pans entiers de la politique numérique, notamment à Bercy. Donc finalement, en fait, on voit une reprise en main par les grands corps de ces différents sujets qui contribuent à éloigner, à mettre à distance toutes ces personnes qui portaient une autre expertise et qui, de ce fait, avaient pu rentrer à un moment dans l'État. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une économisation très forte de la politique numérique, qui, donc là, que j'ai symbolisée par le livre de Nicolas Collin et Henri Verdier. Donc, Nicolas Collin, qui est un énarque de l'Inspection générale des finances, Henri Verdier, qui vient plus du monde de l'entreprise, mais qui va en fait devenir le directeur interministériel du numérique et des systèmes d'information, qui vont en fait se revendiquer de cet esprit numérique dans l'État, mais en utilisant un seul volet, on va dire, du monde numérique, qui est celui des plateformes, des start-up, de la disruption, comme modèle de réorganisation. Il va y avoir là-dessus des affinités électives très fortes entre ce que portent ces nouvelles figures du numérique dans l'État et les grands projets de réforme de l'État la réforme de l'État connaît un approfondissement sans commune mesure depuis en fait le quinquennat de Sarkozy et n'a cessé de s'accroître depuis, avec une nouvelle place des entrepreneurs dans les administrations de la réforme. Donc en fait, les représentants du numérique maintenant sont plus des entrepreneurs que les militants qui avaient su se faire une place dans les années 90. Et surtout, une délégation accrue de services publics au secteur privé. C'est-à-dire aussi cette idée qu'en fait, c'est un véritable modèle pour l'État et qu'il faut en fait qu'on pense nos services publics sur le mode des start-up. Donc, ce qui est finalement intéressant à l'issue de ce double mouvement d'ouverture puis de fermeture des politiques numériques, c'est quand même qu'il nous permet, je pense, de ne plus forcément penser l'État et l'Internet comme deux choses qui s'opposent et qui ne se rencontrent jamais. D'abord parce qu'il y a eu des formes très abouties de coalition, de partenariat. Il y a des institutions qui sont plus militantes que d'autres et il faut s'interroger sur les formes institutionnelles qui permettent ces types de circulation. Ensuite, parce qu'il y a eu de véritables points de passage et des circulations de savoir et d'idées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, et c'est ce qui m'a marqué dans les entretiens, qui se revendiquent complètement d'une culture numérique, qui vont reprendre en fait les idées de distribution des services, d'ouverture, de refus d'un centre hiérarchique, mais dans un discours qui est complètement technocratisé. Et donc, je pense qu'il faut peut-être même encore plus s'interroger sur tous ces phénomènes de traduction, qui sont souvent en fait des subversions de ces utopies numériques dans l'État, parce qu'elles expliquent aussi que en fait, des acteurs publics se sont construits une légitimité dans certaines instances numériques et dans cette révolution numérique, et qui parfois ils se posent comme des avant-gardes de cette révolution numérique. Et aussi parce qu'ils ont construit, et là c'est plus ce qui intéresse la science politique, ils ont permis la construction de nouveaux instruments de politique publique à travers l'usage des technologies dans l'État, et des instruments qui transforment complètement l'organisation de l'État, en souvent renforçant le poids des grandes administrations comme Bercy ou les services du Premier ministre. Donc il y a ces deux intérêts, et pour la science politique, mais aussi pour des gens qui s'intéresseraient plus à qualifier, à comprendre ce phénomène qui continue d'être nourri de transformation numérique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
C'était très riche, donc il faudrait plus de temps pour réfléchir en fait à des questions. Il y a quand même une question que je me pose, c'est sur la formation en fait de ces commissions et leurs évolutions. J'ai l'impression que tu n'as pas eu beaucoup de temps d'en parler. Tu as un peu évoqué la question justement des utopies, mais beaucoup dans le titre du coup, et puis après à la fin de la conclusion. Mais quelles étaient les représentations justement des valeurs, des discours autour desquels s'est structurée la coalition, qu'on appelle la coalition Internet? Et est-ce qu'aujourd'hui elle a survécu, ou est-ce qu'elle s'est sectorialisée? Parce que quand on. Enfin, j'ai l'impression, en connaissant pas du coup la période des 90 à 2000, qu'aujourd'hui, par exemple, quelque chose comme Nisoc et la coalition Internet, c'est tout à fait les mêmes. J'aurais du mal à les mettre même dans la même coalition. En tout cas, pas d'un point de vue justement de ce qui les anime politiquement. Du coup, je ne sais pas. Comment est-ce que tu décrirais ces coalitions, mais du point de vue de leur référentiel?
Alors, ce qui va structurer cette coalition, c'est il y a plusieurs choses. C'est d'abord le faible nombre des. Enfin, ce n'est pas seulement 10 personnes, mais il y a assez peu de personnes qui utilisent l'Internet à cette époque. Et donc, c'est comme une alliance des faibles pour opérer un mouvement de transformation. Après, ils vont quand même se retrouver autour de croyances, mais aussi de pratiques communes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les entretiens. C'est des gens qui, à un même moment, font une expérience de l'Internet qui est structurante. C'est-à-dire, waouh, c'est quand même quelque chose d'assez génial, et qui vont se retrouver plus d'ailleurs sur des pratiques, des intérêts communs, que des projets politiques transversaux, puisque au fond, les divisions idéologiques, elles existent dès le début. Mais il y a cette volonté commune de faire bloc pour défendre une technologie qui est encore très stigmatisée. Et enfin, ça regorge dans mes entretiens de aussi les gens ont l'impression de subir le mépris de leur hiérarchie parce qu'ils s'intéressaient à l'Internet. Enfin, c'est comme le stigma du geek, mais puissance 1000. Et ce qui est intéressant, c'est que comme en fait, il y a des gens qui sont des hauts fonctionnaires, ils vont aussi subir ça, ils vont, sur ce très faible point, se retrouver avec des personnes comme Valentin Lacambre ou Laurent Chemlat. Et ça, c'est presque très amusant, en fait, d'entendre quelqu'un comme Jean-Noël Tron, qui aujourd'hui est président de la SACEM, mais qui a été le conseiller Internet de Lionel Jospin, de dire, à cette époque, Laurent Chemlat et Valentin Lacambre, ils venaient à Matignon, on les a invités parce qu'on était les défenseurs de l'Internet. Et bien sûr, quand on étudie ces structures, on comprend pourquoi ça ne va pas tenir deux secondes. Enfin, ces gens-là n'ont pas grand-chose en commun sociologiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une coalition qui existe et qui va permettre des formes de circulation et d'innovation institutionnelle qui sont relativement rares, en fait, souvent, quand on est en sciences politiques, on observe que les choses ne changent pas, qu'il y a beaucoup d'inertie bureaucratique, etc. Et après, je pense que la traduction de ces utopies, c'est en fait, on va dire, le consensus minimal, c'est la puissance transformatrice du numérique. C'est-à-dire, il se retrouve quand même sur l'idée que c'est en train de bousculer les choses, les hiérarchies, les organisations, et qu'il faut aussi repenser toutes les formes d'organisation, d'entreprise, etc. Mais ça, ça va être traduit dans la bureaucratie, dans « Waouh, Internet, ça va nous permettre de faire le ménage dans l'État, de réorganiser l'État et en fait de construire des nouvelles politiques de réforme. » C'est toujours cette idée de puissance transformatrice, mais complètement technocratisée ici.
Une question centrifuge et centripète, c'est-à-dire la question centrifuge, c'est où sont les fonctionnaires ingénieurs, polytechniciens, les mines, qui arrivent avec un corpus structuré en termes de formation à la fois technique et technologique. La question centripète, c'est est-ce que tu as étudié les fonctionnaires justement qui sont passés de l'autre côté avec un effet d'enchantement du numérique très fort, type la génération Colin, Romain Sormand, Fleur Pellerin, voilà, j'ai noté de différentes façons et qui se sont ensuite, est-ce que t'as réussi à interroger cette sociogénèse, le rôle de l'État comme support de l'innovation, notamment dans le lien entre ces deux générations techniques que sont le Minitel et Internet, et le cas échéant, est-ce qu'il y a une cohérence générationnelle, je pense à des gens comme Niel, Nisika, qu'on trouve à différents endroits jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière, du coup, qui est à la fois épistémologique et un peu pratique ou politique, sur cette histoire de Code is Law, est-ce que la France n'est pas un super cas d'étude pour, je ne sais pas, soit dire l'inverse, soit interroger les frontières entre la science politique, la pensée du numérique, à partir du point d'approche à la frontière écologique sont complètement différents, puisqu'on a pu rapporter aux États-Unis.
Beaucoup de questions, du coup, n'hésitez pas à me redire si j'oublie. Donc, sur les hauts fonctionnaires des mines, donc c'est vraiment intéressant parce que les années 90 sont aussi un moment de profonde déstabilisation des grands corps, puisque, en fait, surtout le corps des télécoms, puisqu'il y a la privatisation de France Télécom. Donc, tout un tas de débouchés professionnels qui étaient garantis par l'existence d'une administration des télécommunications sont en train de disparaître. Et donc, c'est vrai que dans les jeunes générations, il va y avoir des gens qui vont très tôt s'approprier l'Internet parce que c'est aussi des moyens de survivre à la mort du corps. Et il y a, à ce moment-là, c'est pas uniformément, en fait, le corps des mines qui est réactionnaire. En fait, il y a des tensions très fortes. D'ailleurs, Christian Scherrer, celui qui anime le site Adminet, il vient des mines. Il est soutenu par un petit collectif au sein des mines. Et quand le secrétaire général du gouvernement demande qu'il soit radié du corps des mines, il y a une micro-mobilisation de certains ingénieurs des mines pour qu'ils ne soient pas radiés du corps des mines. Donc, en fait, ces grands corps sont eux-mêmes en tension. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tout à fait générationnel. Enfin, en fait, il y a quand même des vieux qui prennent le pas assez vite et des jeunes qui restent dans une vision assez l'innovation centralisée, administrée par l'État. Ce qui explique ces différences, je pense, c'est plus les trajectoires. Par exemple, en fait, ceux qui sont allés aux États-Unis, ceux qui ont fait de la recherche, enfin, il y a des trajectoires, des points de passage où on voit qu'il y a des expositions assez précoces à Internet qui ont pu permettre aussi un passage un peu plus rapide. La même chose pour Minitel et Internet. Et là, vraiment, je souscris complètement. Ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, mais à tout ce qu'ont montré les travaux de Valérie Schaffer sur le fait... Ce n'est pas deux mondes qui communiquent jamais. Enfin, et d'ailleurs, par exemple, Valentin Lacombe, au début, il a 3615 Internet. C'est genre, on accède à Internet par le Minitel. Enfin, il y a plein de petits points de passage. Il y a ces entrepreneurs que tu as cités, comme Xavier Niel. Ce qui est intéressant dans ma coalition, c'est que c'est aussi... pas forcément les grands, ceux qui ont les services les plus légitimes sur le Minitel. Enfin, c'est pas anodin, je pense, que ce soit beaucoup des animateurs de messagerie rose qui vont en fait switcher sur l'internet et trouver par là aussi le moyen de, enfin voilà, de bousculer des stigmates qui leur restaient à coller. Enfin, et de, voilà, il y a des intérêts très personnels qui structurent ces coalitions dans la réception française de Code ISLO. Enfin, je vous suis tout à fait. Je pense qu'il y aurait tout un travail super super intéressant à faire sur ces applications ou pas. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus Lessig, il a invité assez tôt à participer en 1998 ou 1999. Il y a une réunion organisée par Christian Paul où Lessig, c'est le seul Américain inventé. Il vient de publier Code ISLO et il fait une présentation. Et en fait, c'est reçu. Enfin, ça passe complètement au-dessus de la tête de tout le monde. Mais parce qu'il y a cette idée que, de séparation, le code et la loi, c'est vraiment pas du tout pareil. Et quand j'ai confronté certains conseillers d'État à ce type de travaux américains, ils étaient extrêmement réticents. Ils disaient, mais non, enfin, ce mec-là n'a rien compris, c'est pas comme ça qu'on écrit le droit. Et d'ailleurs, ça pose tout un tas de problèmes. Donc, je pense qu'il faudrait en effet travailler beaucoup plus là-dessus. Le simple fait que c'est quand même pas traduit en français, ça veut pas du tout dire que c'est pas lu, mais il y a des choses qu'il faudrait, je pense, développer, qui sont des pistes très intéressantes.
Allez-y,
Sugar. D'accord. Je trouve votre travail est vraiment très intéressant. Je pense que ça s'inscrit en fait dans toutes les réformes des sociétés en général. Parce qu'on voit, il y a toujours, quand je pourrais prendre la PMA ou autre chose, hein, il y a toujours un moment, tout le monde est contre, on a l'impression, et c'est comme si la société va être complètement chamboulée, c'est la fin du monde. Et finalement, quelques temps plus tard, on voit que c'est comme si c'était tout naturel, ça a toujours été là. Et tout ce que vous avez raconté lorsque je suis arrivé ici, c'est pour moi, ce n'était pas imaginable. Dans mon esprit. Et donc aujourd'hui, Internet, on fait avec tous les jours. Donc j'ai une remarque notamment sur le Conseil d'État, parce que je suis juriste, et ensuite j'ai une question. Le Conseil d'État, je pense que ce qu'il fait, parce que vous savez que le Conseil d'État est à la fois juge, c'est la juge, la juridiction suprême de l'ordre administratif, et c'est aussi le conseiller de l'État. Et le Conseil d'État fait tout, est à la fois juge et partie en même temps. Et donc, de ce côté, le Conseil d'État, donc, l'État écrit le droit et ce qui fait peur le Conseil d'État dans l'utilisation de l'Internet, c'est par exemple, vous savez, avec l'usage des algorithmes, on sait aujourd'hui, lorsque certains juges au sein du Conseil d'État, au sein de la juridiction administrative en général, interprètent des normes avec une certaine partialité, d'inobjectivité, etc., etc. Et donc, ils sont contre, c'est pour ça qu'ils sont intervenus, ils n'ont pas réussi lors de la loi Le Maire de 2016, et donc là, ils viennent de le faire avec la loi sur la justice, programmation de la justice pour 2022. Donc là, ils sont arrivés à leur fin en disant, c'est à nous de régler ce type de problème, de savoir est-ce qu'on utilise l'Internet pour pouvoir analyser les décisions rendues par le Conseil d'État ou pas. Et ça, c'était une remarque comme ça que j'avais. Et ma question, c'est lorsque vous avez dit, vous avez cité, je crois que son nom, c'est Devin, c'est en général, Devin qui dit que, en fait, l'usage de l'Internet, enfin, l'utilisation de l'Internet par l'administration, ce serait se livrer aux Américains. Je me demande, est-ce que cette remarque n'est pas valable jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où aujourd'hui, Internet est géré par une institution qui s'appelle l'ICANN, qui est une institution qui est sous la coupe des États-Unis. Alors, on a beau dire, effectivement, tous les États sont représentés, la France, l'Europe, l'Asie, etc., c'est bien. Mais là, depuis quelques temps, moi, je suis en train de réfléchir, je me dis, les États-Unis, aujourd'hui, sont capables de condamner la BNP Paribas ou Société Générale à des milliards d'euros. Je me demande, est-ce que Internet, c'est-à-dire la même mise qu'ils ont sur Internet, ne leur permet pas de savoir en détail qui utilise le dollar dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel, dans tel, ou tel lieu très précis pour pouvoir mettre ces types d'amendes. Et il y a un autre élément qui me conduit vers cette idée encore, c'est récemment... Oui, la condamnation. Je termine. La condamnation de Huawei, par exemple, il suffit que les États-Unis disent à Google, vous cessez votre accord avec Huawei et c'est terminé. Donc, je me demande est-ce que le général Devine n'est pas toujours
Merci. Du coup, pour répondre peut-être très rapidement donc sur la place du Conseil d'État, oui, elle est très importante et comme vous dites, qui est fascinant dans ces grands corps, c'est leur capacité à être à plusieurs endroits à la fois, c'est-à-dire à la fois dans les cabinets ministériels pour écrire la loi, au Conseil d'État pour valider la loi et en juge administratif pour revenir ou amender des formes de juridiction administrative qui ont été créées autour du numérique, qui sont très nombreuses, avec la ADOPI, la CNIL, etc. Donc ça, c'est sûr. Sur la brèche dans la sécurité nationale, oui, je pense que c'est intéressant. Il y a le général Devine, ne communique plus, mais il y a des interventions plus récentes de lui il y a quelques années où il dit, vous voyez, j'avais raison, un peu après Snowden, j'avais raison, en fait, on se fait espionner par les Américains. La question qui était posée à l'époque, en fait, il y a aussi derrière, est-ce que l'intérêt national, la sécurité nationale, et on voit bien que c'est un motif très récurrent en France et en Europe, est-ce que ça passe juste par la promotion de champions nationaux? En fait, est-ce que garantir notre sécurité nationale, ça part juste par en fait, faire que Orange soit un acteur majoritaire? Ou est-ce qu'il n'y a pas... investir les institutions internationales, etc. Enfin, il y a aussi d'autres moyens de défendre les intérêts des citoyens français que ceux que proposait à l'époque le général Devine, qui était très régalien et répressif.
Très rapidement, ma question portait sur l'utilisation du code pour l'écriture de la loi, plutôt, puisque en fait, la loi République numérique et la loi surveillance que tu as placée sur le même plan. Probablement par manque de temps pour développer cet aspect. Est-ce que ça a été, j'imagine, difficile de faire utiliser la plateforme pour commenter sur le projet de loi République numérique?
Exactement. Donc, très rapidement, moi, je m'y intéressais pour voir comment, en fait, en fonction des configurations institutionnelles, c'est-à-dire la loi République numérique, c'est une initiative d'un secrétariat d'État qui prend un peu d'importance, mais qui permet en fait des formes même d'écriture de la loi inédite par rapport à la loi surveillance, où là, en fait, le ministère de la Justice et surtout de l'Intérieur qui ont la main, et dans ces configurations, comment on peut défendre, apporter d'autres arguments, et notamment des arguments techniques. Et on voit, c'était aussi pour moi, l'intérêt, c'est de montrer comment ces configurations jouent et rendent parfois difficile la prise en compte de ces enjeux. Ce qui est intéressant autour de la consultation, c'est qu'en effet, aujourd'hui, les héritiers du numérique disent, nous, finalement, ce qu'on peut apporter, la seule manière dont on peut continuer à défendre les utopies numériques, c'est en proposant ces nouvelles manières de faire, de réintégrer du distributif dans les manières d'écrire la loi, de donner une place à des acteurs qui ne sont jamais invités dans les ministères, etc. Donc là, il y a des formes un peu minimes de volonté, en tout cas, de faire vivre, et pour ces gens, de continuer à se revendiquer d'une utopie assez dégradée, ou du moins amoindrie dans l'État. Mais oui, désolée, j'ai dû faire ça très vite. Merci beaucoup pour vos questions.
Merci beaucoup. Et votre question.